RTVFM, l'interview du jour.
Alors nous voilà sur une place emblématique de Carpentras, me semble-t-il, moi qui ne suis pas carpentrassienne. On est à la librairie de l'Horloge avec le gérant et le propriétaire de la librairie de l'Horloge, Monsieur Bonnet, qui va se présenter et qui va nous présenter son lieu, ce qu'il s'y passe, la surface qu'il présente. Et puis j'ai regardé aussi en vitrine, il y a tout plein d'affiches sur des rencontres que vous organisez régulièrement. Donc ça sera les rencontres du mois de novembre qui vont nous intéresser. Là, il est un petit peu en panique parce qu'il se dit, peut-être que vous dites que vous n'avez pas toutes les dates en tête. On peut se lever, hein, on n'est pas figé. Donc Monsieur Bonnet, cette librairie, racontez-nous.
C'est la librairie dans laquelle on se situe, c'est celle que j'ai, on va dire, créée il y a 2 ans et demi, puisque auparavant j'avais racheté la librairie en 2011, mais j'ai décidé de changer de lieu en 2017, et ce qui fait qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, je considère que la librairie de l'Horloge, c'est ma création, puisque j'ai décidé de changer de lieu et aujourd'hui elle fait à peu près 200 mètres carrés et on a une fréquentation qui est très importante par rapport à ce qu'on faisait encore jusqu'à 2017.
Alors vous dites changer de lieu, donc je ne sais pas où vous étiez avant. Alors par contre, c'est vrai que vous êtes très bien situé, il y a plusieurs façades de vitrines. Alors vous étiez où avant ?
Avant, on était juste dans les halles de Carpentras, donc c'était un petit peu plus confidentiel, c'était à 200 mètres à peu près. Et on a rejoint ce lieu qui était en fait l'ancienne bibliothèque de Monseigneur Dinguimbert, qui était donc un des grands prélats de Carpentras. Donc il y a une sorte de clin d'œil entre sa bibliothèque et puis aujourd'hui la librairie de l'Horloge.
Alors donc c'est l'ancienne librairie de Monseigneur Dinguimbert, pas à peine que je rajoute la tine. Donc ces lieux datent du XVIIe siècle, XVIIe-XVIIIe.
À peu près effectivement, dans ces eaux-là.
Ah oui, alors donc c'est pétri d'histoire, donc c'est un lieu un peu magique, un peu spécial.
Oui, puisque on est même adossé à côté de colonnes qui sont classées, et donc ça fait partie effectivement des lieux importants de Carpentras.
Donc vous êtes un incontournable de Carpentras.
Voilà, c'est ça, si on veut.
Comment vous êtes arrivé à la librairie ? C'est un parcours de longue haleine, c'est récent, racontez-nous.
Alors, j'étais au départ issu du domaine de la finance et de l'immobilier, donc rien à voir avec la librairie. Et puis, comme certaines personnes le font à la quarantaine, où ils se posent des questions, j'ai voulu changer de vie. J'ai voulu faire des choses qui étaient beaucoup plus de mon goût. Et donc, j'ai eu envie de racheter une librairie. J'avais pas de lieu prédestiné. Il s'est trouvé que celle de Carpentras, à un moment donné, m'intéressait. Donc, je me suis retrouvé un petit peu dans le Vaucluse, pas par hasard, puisque je voulais cette librairie-là, mais en tout cas, dans un endroit que je ne connaissais pas très bien.
Et votre parcours alors professionnel, vous l'avez dit. Après, votre parcours scolaire, j'imagine qu'il est un petit peu aussi dans les comptes.
Alors, je fais une grande école, je fais Sciences Po à Paris. Donc voilà, c'était effectivement pas un parcours destiné forcément à la librairie. Mais en même temps, c'est un parcours qui m'a servi, puisque gérer une librairie, c'est aussi être en gestion assez calé, parce que c'est une activité quand même avec un équilibre financier assez juste. Donc bien évidemment, mes études, mon parcours m'ont aidé pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui.
Donc beau parcours, mais je pense que le fil conducteur, c'est quand même le livre.
Oui, depuis tout petit, je lis, et c'est vrai que, on va dire, j'ai presque envie de dire que mes années de finance ont été une parenthèse, parce que je suis revenu vraiment à ce que je voulais faire, à la lecture. Depuis tout le temps, j'ai une passion pour la culture de façon générale et pour le livre en particulier. Oui, pour moi, le livre, c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui encore, quelqu'un qui peut lire a la possibilité d'avoir du recul un petit peu sur soi-même et puis aussi dans le monde dans lequel on vit.
Alors, vous avez dit que vous lisiez depuis tout petit, mais tout petit, c'est quel âge, ça, tout petit ?
C'est une dizaine d'années à peu près. En plus, en tant que fils unique, c'était vraiment les livres qui m'ont été une sorte d'imaginaire dans lequel je pouvais me retrouver. Là où peut-être d'autres enfants avec des frères et sœurs arrivent à se créer un imaginaire, il est clair que le livre a permis pour moi de créer cet imaginaire.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez le directeur conservateur de Langenbertin, de la Langenbertine, Monsieur Canuti. Lui, le livre, il a commencé vers 10-11 ans. Il n'était pas du tout dans une littérature qu'on a actuellement pour les adolescents, où je citais J. Caroline, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Il était quand même sur de la grande littérature. Vous avez commencé par ce même parcours ?
Eh bien, j'ai envie de vous dire... Oh non, j'ai commencé effectivement peut-être par tout ce qui est la bibliothèque verte, etc. À l'époque, il y avait beaucoup moins de choix en librairie jeunesse, mais ça ne m'a pas empêché de lire rapidement du Jules Verne, là aussi, et puis après monter en gamme, on va dire entre guillemets, avec des livres plus intello et des grands auteurs comme Dostoïevski, comme voilà, des Flaubert, Maupassant, etc.
Et votre cadre familial vous a encouragé ? Vous étiez peut-être déjà dans un terreau où la littérature était, était naturelle ?
Alors justement, pas du tout. Moi, je viens d'un milieu populaire dans lequel mes parents n'ont pas fait beaucoup d'études. Et justement, je pense probablement aussi la lecture, la culture ont été une sorte d'ascension sociale aussi pour moi. Et ce qui fait que, voilà, il y a aussi chez moi, pour le livre, un privilège particulier dans mon esprit. Mais non, effectivement, moi, je viens pas d'une culture, justement, d'une catégorie sociale particulièrement privilégiée par la culture. Mais mes parents m'ont poussé, effectivement, à faire des études. Et donc, du coup, j'ai embrassé la culture de façon naturelle.
Et le livre, il est venu comment à vous ? Par l'école ou par la bibliothèque de l'école ou du village ?
Il est venu par l'école quand même, hein, c'est-à-dire que ça a commencé quand même essentiellement par les lectures obligées, mais les lectures obligées de Molière, de Flaubert, etc. Ont aiguisé un peu ma curiosité à la lecture et donc j'ai découvert un univers que je ne soupçonnais pas parce que chez moi effectivement il n'y avait pas beaucoup de livres et c'est bien l'école qui a joué son rôle et qui a fait qu'aujourd'hui j'ai vraiment un grand goût pour tout ce qui est la culture et la lecture en particulier.
Et ces lectures obligatoires qu'on a tout le long de sa scolarité, elles vous ont marqué ? Il y a des pics dans ces lectures qui ressortent ?
Oui, c'est vrai que j'ai eu un ou deux profs de français qui m'ont effectivement marqué. Je me rappelle d'un prof qui était capable de passer toute une heure en parlant d'un paragraphe de Madame Bovary, de Flaubert, et ça m'impressionnait de savoir qu'on pouvait autant approfondir, analyser quelques lignes et qu'un écrivain pouvait donner autant de signification à quelques lignes, à quelques phrases. Et puis après, le goût est venu par la curiosité et j'ai effectivement commencé à m'intéresser notamment à Maupassant, que j'aimais beaucoup, et puis d'autres auteurs. Après, il y a eu les lectures obligées, effectivement, comme Molière, etc. Mais là aussi, j'ai jamais vu ça comme une obligation, peut-être malheureusement un petit peu trop ce que les jeunes aujourd'hui ont comme vis-à-vis de ces auteurs, avoir ça comme une obligation, alors que c'est avant tout des puits de connaissances et de culture absolument incroyables.
Ou le contexte qui n'est pas mis en place de savoir que Molière, c'est Louis XIV, ou XIV, c'est le XVIIe siècle, il y a 350 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le fait que peut-être les enseignants de français ne font peut-être pas assez de parallèles avec l'histoire. Alors là, je m'avance, hein, je ne veux pas mettre à dos tous les enseignants de français, mais est-ce que vous ne pensez pas que le lien et le contexte n'est pas assez mis en place pour encourager à la lecture ?
Écoutez, il y a quand même... moi, je trouve, par exemple, les livres, les classiques de la littérature sont aujourd'hui beaucoup plus agréables, entre guillemets, à lire qu'auparavant, hein, puisqu'il y a des collections avec derrière des corpus qui est explicatif, etc. Nous, on n'avait pas ça. Je crois que c'est surtout lié à la passion qu'ont pu avoir des profs pour communiquer leur passion des livres. Et si j'ai peut-être un petit regret, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans les profs qui viennent, peut-être, déjà, je vois pas énormément de profs en librairie, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Et deuxièmement, du coup, c'est compliqué peut-être de donner la passion à la lecture si soi-même on n'est pas forcément un passionné de la lecture comme on peut. Alors, il y en a encore, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut peut-être sur lequel l'éducation doit travailler.
Les multimédias, les nouveaux outils, c'est vrai qu'on a énormément de choix. Je vois nos enfants, je vois nous-mêmes, on est très, très happés par les réseaux sociaux. Est-ce que ça fait du mal à la librairie ?
À la librairie, pas tant que ça, ne serait-ce que parce que on s'aperçoit que même malgré tous ces outils, les parents, alors c'est vrai que de milieux plutôt favorisés, viennent encore acheter pour leurs tout-petits des livres papier. Donc il y a la culture du papier qui reste présente même chez les tout-petits. En revanche, là où je suis persuadé que ça peut faire des dégâts, c'est dans effectivement la concentration que nécessite le livre. Concentration qui est beaucoup plus compliquée lorsque un enfant utilise beaucoup trop de numérique. Et la lecture est chronophage, la lecture demande concentration. Donc c'est des habitudes cérébrales qu'il faut petit à petit former chez un enfant. Et malheureusement, moins un enfant lit, plus il s'occupe du numérique. Et moins il sera apte effectivement à développer peut-être ces capacités-là.
Donc finalement, la lecture, c'est un monde à part, vous pensez. On est dans l'entre-soi. C'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Moi, je vous ai parlé un petit peu de mon émission en souhaitant, en espérant que cette émission, elle encourage la lecture. Vous pensez quand même que la littérature, ça reste quand même du entre-soi ou la lecture en soi ?
Non, il n'y a pas plus simple que la lecture. Une fois qu'on sait lire, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus direct que la lecture. C'est un peu ce qu'on... C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on l'ait oublié. Parce que ça nécessite aucun moyen d'autre que du papier. C'est ça qu'il faut retrouver, je pense. Et voilà, mais c'est pas un entre-soi. Et quand bien même c'était un entre-soi, c'est un entre-soi pour soi-même, à savoir développer un imaginaire, à développer. Mais il n'y a rien de plus beau, plus simple que de rêver, après tout, avec un livre.
Je suis bien d'accord avec vous. Monsieur Bonnet, votre livre du mois, alors là, je sais que c'est difficile parce qu'on est entouré de livres, c'est un rêve de lecteur ici, mais il va falloir faire un choix. Quel est votre livre du mois? Et il hoche du bonnet, monsieur Bonnet, et c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut faire un choix, un seul. Alors, à vous.
Alors, s'il y a un livre que j'ai envie de vous conseiller, qui sort un petit peu des sentiers battus, c'est un livre qui s'appelle De pierre et d'os, un livre d'une auteure dénommée Bérangère Cournu. Alors pourquoi c'est un livre intéressant ? Parce qu'il évoque l'histoire d'une jeune Inuite, hein, donc on se retrouve un peu dans les contrées de l'Arctique, là-haut, et qui, au détour d'une journée, se retrouve, à cause d'une faille dans la banquise, se retrouve séparée de sa famille. Et elle va devoir reconstruire sa vie toute seule avec 2-3 chiens et c'est une fabuleuse épopée parce qu'on va découvrir effectivement comment elle doit faire face à la nature, des chiens par exemple qui à un moment donné ont faim et vont vouloir la manger pour survivre, et puis elle va devoir reconstruire une famille. On va découvrir effectivement tout un monde où les positions dans les familles inuites sont bien cadrées, hein, le père, la mère, chacun sa place, comment dans des familles comme ça on tombe amoureux, comment on peut reconstruire une famille. Et puis on s'aperçoit aussi que c'est des sociétés où les esprits, les mythes sont très importants, et une petite fille peut être habitée par l'esprit d'une grand-mère qui est décédée il n'y a pas très longtemps. C'est un livre qui d'une grande ouverture par rapport à nos sociétés dans lesquelles on vit, et ça fait du bien.
C'est une rentrée littéraire ?
Ça fait partie de la rentrée littéraire. C'est même une auteure que je vais recevoir au mois de janvier de l'année prochaine, en 2020.
Alors justement, belle liaison, vous avez des rencontres régulières. Donc pour le mois de novembre, vous avez un petit peu en tête les rencontres que vous avez à la librairie ?
Alors pour le mois de novembre, j'ai rarement eu un mois de novembre avec autant de rencontres. Ça va être presque infernal, mais en même temps c'est captivant et passionnant. Je vais avoir entre autres un auteur qui a réfléchi beaucoup sur la société qui s'appelle Denis Guénoun. Après, dans les auteurs assez connus et qu'on va recevoir, il y aura une rencontre phare avec Jeanne Benhammer qui va se faire en liaison avec la bibliothèque Ingambertine. Je vais aussi recevoir un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait un livre très touchant sur la mort de sa sœur, qui s'appelle Jean-Marie Laclaftine, qui est un éditeur chez Gallimard. Voilà, il y aura aussi des rencontres avec deux auteurs sur la façon dont ils écrivent et leur rapport avec leur langue d'origine. Voilà, il y a beaucoup de choses au mois de novembre et c'est effectivement un mois qui va être assez passionnant de ce point de vue-là.
Comment on y vient à vos rencontres ?
À pied.
À pied. Avec joie. Et puis, voilà, vous pouvez aussi consulter le programme sur le site de la librairie de l'horloge. Mais en tout cas, c'est gratuit. On fait même un apéro souvent après, donc c'est d'autant plus convivial. Et c'est ouvert à tout le monde, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on a souvent de l'ordre de 40 personnes facilement pour nos rencontres. Elles sont assez reconnues, je pense, même dans le métier de l'édition, puisque j'arrive à avoir des auteurs assez facilement. Donc voilà, je pense que c'est... Et puis là aussi, ça permet aussi de faire du débat, de faire de l'échange dans des moments comme celui-ci qui sont particulièrement en manque de réflexion.
Oui, j'ai vu que pour le mois d'octobre, vous aviez Monsieur Lionel, l'écrivain Lionel Duroy. Je me trompe, comment s'est passée cette rencontre ?
Alors, c'est une rencontre qui s'est très très bien passée. Lionel Duroy est presque un ami puisqu'il habite pas loin et à chaque fois qu'il sort un livre, il vient. Et puis, il faut savoir que son œuvre est passionnante puisqu'elle déroule effectivement un schéma de vie qu'il a eu avec une enfance terrible, puisqu'il a eu des parents qui malheureusement ont pas été à la hauteur dans la façon d'éduquer les enfants. Et lui, dans son écriture, a aussi été ostracisé par ses frères et sœurs. Et là, dans son dernier livre, il imagine un repas de réconciliation entre ses frères et sœurs et lui. Et en ça, c'est un livre qui est absolument à lire. À découvrir.
C'est de la résilience pour finir alors son dernier ouvrage.
C'est tout à fait la résilience, c'est savoir comment on peut s'en sortir malgré toutes les vicissitudes de la vie. Et puis c'est un livre aussi sur la fratrie, sur le pardon aussi, sur aussi ce qu'on transmet à ses enfants, parce que le livre évoque aussi les enfants, il y a de Lionel Duroy qui sont présents. Et quand on n'a pas reçu une éducation, une bonne éducation, comment fait-on pour éduquer des enfants ?
Pour repartir sur un bon schéma. Alors la question qui se termine généralement qui termine l'interview, c'est quel est l'ouvrage, le livre, le texte qui a changé votre vision du monde ou changé votre parcours personnel ? Alors là, je sais que c'est une question difficile aussi.
Alors, j'ai envie de vous dire de façon simple, dans l'adolescence, j'ai été marqué par un livre effectivement m'a transporté. J'aurais du mal encore une fois peut-être à me rappeler effectivement exactement du sujet du livre, encore que si, mais je vais vous dire quel est ce livre. Ça s'appelle c'est les possédés de Dostoïevski et j'avais été absolument impressionné par la force des personnages et puis par cette histoire de personnages qui voulaient absolument créer un homme nouveau dans la Russie de la fin du 19e siècle. Et Dostoïevski avait fait avec ce livre-là quelque chose de très, tellement puissant, tellement fort que ça m'avait marqué, bien que ce ne soit pas un ouvrage des plus faciles.
Tout à fait. Et l'accueil au niveau des Carpentraciens pour votre librairie, ça se passe bien, la relation ?
Oui, je pense que dans des villes comme Carpentras, c'est particulièrement important d'être proche de la clientèle, de la population, de montrer aussi qu'on fait des choses. Je pense qu'encore une fois, une librairie dans une ville comme Carpentras, c'est particulièrement important. On a presque une plus belle librairie sans être prétentieux qu'Avignon. Et donc, je pense que les Carpentraciens en sont fiers, et même les gens les petits villages qui sont autour. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir à l'esprit que c'est important de sauvegarder une librairie dans une ville comme Carpentras.
Il y a un style littéraire qui ressort avec les Carpentraciens ? Ah, c'est une question difficile, non, mais c'était à tout hasard. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'à Carpentras, on lit différemment qu'à Avignon.
Difficile de répondre à votre question. Non, vous savez, les rentrées littéraires... Les Carpentraciens, comme beaucoup de personnes, sont assez ouvertes aux sujets qui sont présents lors des rentrées littéraires. Et aujourd'hui, et donc les gens sont très ouverts à lire des livres de cette rentrée littéraire. Alors les sujets aujourd'hui qui sont quand même assez prégnants, c'est deux, moi j'ai envie de vous dire, il y a deux, trois sujets qui sont forts, qui sont d'une part la place des femmes, hein. C'est vrai que c'est un sujet quand même, que ce soit à travers leur oppression, leur soumission, ou par tout simplement par les héroïnes. Il y a le sujet aussi de tout ce qui est l'émigration, ça, c'est un sujet aussi qui intéresse. Et puis après, il y a tout le reste des romans qui peuvent être très très variés. Et qui, mais en tout cas, il n'y a pas de style véritablement demandé par une clientèle, mais plutôt une clientèle qui est ouverte en fait à beaucoup de types de livres.
Et votre vente numéro 1 de la rentrée ? Ah ah. Là, on fait le tour.
C'est, pour le coup, je ne suis pas très original. C'est un véritable phénomène depuis le temps qu'elle écrit, mais Amélie Nothomb reste encore effectivement une référence en matière de lecture. En plus, elle parvient avec ce livre, je crois, à un tour de force de parler de Jésus, ce qui est à la fois assez tellement audacieux et puis tellement osé, que en tout cas son livre marche énormément. Il y a d'autres livres qui marchent très bien, mais en tout cas on peut dire que c'est le numéro un des ventes actuellement.
C'est un bon écrivain, Amélie Nothomb.
Oui, c'est effectivement. Si vous me demandiez qu'est-ce que je pourrais souhaiter en 2020, et ben éventuellement de la faire venir.
Oh, Amélie Nothomb, j'adorerais l'interviewer. On est d'accord. Je vous remercie pour cette interview. Vous avez peut-être une petite phrase de fin. Comment faire venir les gens jusqu'à votre librairie ?
À pied encore, bien sûr.
À pied, bien sûr. Mais j'ai envie de dire que la porte est ouverte. C'est tout ce que j'ai envie de dire, que vous pouvez rentrer dans la librairie. Souvent, on a tendance... en tout cas, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on imagine que rentrer dans une librairie, aujourd'hui, en tout cas dans la mienne, soit quelque chose d'un peu intimidant. Je crois qu'on a dépassé un peu ce stade où avant, il fallait rentrer dans une librairie et on pouvait effectivement être un peu intimidé par le nombre de livres, le savoir du libraire éventuellement. Là aujourd'hui, j'estime que la librairie appartient à tous et on peut trouver son bonheur quel que soit le type de livre qu'on achète.
Bon, le savoir du libraire est quand même grand, hein, faut le reconnaître, Monsieur Bonnet.
Le savoir du libraire, j'en sais, oui, peut-être, mais moi je suis aussi très preneur des conseils de mes clients. Et je pense qu'il y a véritablement un échange aussi à avoir. Et moi, quand un client me dit « Écoutez, ce livre-là, j'ai beaucoup aimé, je vous conseille de le lire », eh ben, je l'écoute. Et même lorsque j'ai lu un livre qui m'a plu, et que je l'ai conseillé à un client et qui m'a dit « Écoutez, ce livre-là, il m'a moins bien plu », je suis curieux de savoir pourquoi. Et je n'ai pas la prétention de dire que tout ce qui m'a plu est forcément peut plaire à tout le monde. Et c'est toujours intéressant d'avoir cet échange avec des clients.
Je vous remercie, merci pour l'accueil, merci pour le lieu. Savoir, on peut découvrir que ce lieu date du XVIIIe siècle et appartenait à la bibliothèque de Don Monseigneur Hengenberg. C'est un plus pour la librairie. Je vous remercie. À une prochaine, peut-être pour une rencontre. Merci Monsieur Bonnet de la librairie de l'Horloge.
Et bien merci à vous et au revoir.
RTVFM.